ce sont les informels de Radio Pleine Lune, 19h, les coups de cœur de Marjolaine. Là, j'ai quelques autres nouvelles à vous transmettre. Des nouvelles qui, parfois, ne sont plus d'actualité, mais il est quand même bon d'en parler. Aujourd'hui était censé mettre les pieds sur le territoire suisse Benjamin Netanyahou. Or, ce monsieur a estimé qu'il valait mieux ne pas passer par la Suisse, paraît-il vexé parce qu'il n'y avait pas de drapeau israélien qui flottait devant la façade de l'hôtel dans lequel il était censé descendre. Eh bien, il y en a d'autres en Suisse qui ont trouvé que de toute façon, sa présence était absolument inadmissible et pas pour une bagatelle comme celle-ci. Je vous en fais part. C'est l'Association pour l'Union entre les peuples juifs et palestiniens qui avait décidé de manifester cet après-midi sur la Bärenplatz à Berne en noir pour manifester leur indignation devant le fait que les autorités suisses invitent Benjamin Netanyahou en Suisse et elles ne se plaignaient pas du fait que M. Netanyahou n'aurait pas été invité pour des histoires de vexation par rapport aux banques suisses, mais pour bien, quelque chose de bien plus sérieux. Je vous lis le texte. C'est avec indignation que nous, Suisses, assistons aujourd'hui à l'accueil, nous aurions dû assister aujourd'hui à l'accueil de Benjamin Netanyahou, l'actuel Premier ministre de l'État d'Israël, par les instances politiques et économiques de notre pays. Nos représentants et l'Office suisse d'expansion commerciale ne sont pas sans savoir que le gouvernement Netanyahou perpétue et aggrave la politique d'expansion de colonies, de ségrégation et d'exclusion pratiquée par l'État d'Israël au détriment du peuple palestinien, tout en paraissant se rallier aux accords d'Oslo. Alors en quoi ça consiste-t-il? Bouclage continuel des territoires occupés ou autonomes, interdisant la libre circulation des personnes et des biens, destruction de ce qui reste de l'économie palestinienne, expropriation des terres, interdiction de construire et démolition de maisons, maintien et expansion des colonies existantes et création de nouvelles implantations au cœur des territoires palestiniens et de la ville de Jérusalem, punition collective, violation régulière de la loi internationale et des droits de l'homme, impunité des colons, toutes ces mesures conduisent inexorablement à la montée d'une violence qui compromet l'espoir de voir s'épanouir un jour une cohabitation pacifique des peuples vivant sur la terre d'Israël-Palestine. Alors nous savons tous que l'économie est le fer de lance de la politique d'un pays, soutenir de quelque manière que ce soit son expansion, c'est cautionner sa politique. Ne nous le cachons pas, donc investir en Israël n'est pas un acte neutre ou innocent et par conséquent, inviter Netanyahou aujourd'hui pour stimuler les échanges commerciaux entre la Suisse et Israël représente de fait un encouragement manifeste à la politique de son gouvernement. Donc l'Association pour l'Union entre les peuples juifs et palestiniens et beaucoup d'autres qui certainement pensent comme eux exigent bien sûr que le gouvernement suisse cesse toute forme de coopération militaire, technologique ou culturelle avec l'État d'Israël tant que celui-ci ne respectera pas la loi internationale, qu'il conditionne donc notre pays les échanges commerciaux à la levée immédiate et définitive des bouclages des territoires occupés ou autonomes, à la libre circulation des personnes et des marchandises entre les territoires autonomes et à l'octroi de conditions de travail égales pour les Palestiniens et les Israéliens et à la levée de toute entrave au commerce palestinien. Et une petite phrase de conclusion qui vaut son pesant de signification. Le cynisme de la politique économique de la Suisse est célèbre. Il serait temps que l'attrait de l'or cesse de l'emporter sur le respect des droits humains les plus élémentaires. Une note évidemment un tout petit peu plus joyeuse. Nous le savons par ailleurs que la joie a éclaté dans la bande de Gaza à l'ouverture de l'aéroport palestinien de Gaza.
Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza sombrero con tanta cinta y a quien no tiene cabeza. Aún debe algo hay que no haré, responde con prontitud. Si no tenés la contesta, prepárate el ataúd. Vale más en este mundo ser limpio de sentimiento. Muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro. Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida. A tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras, sin quedarse ni pasarse medio a medio de la raya. Yo suspiro por un peiro, como no hay de suspirar, si me han llegado la llave de todo lo celestial. Y vos me diste el secreto de chapa sin cerradura, como quien dice la llave del tarro de la basura. Déjate de corcoveo, que no nací paginete, me sobran los valentinos, los gardeles y negrete. Al pasito por las piedras, cuidado con los juanetes, que aquí no ha nacido nadie con una estrella en la frente. Discreto, fino y sencillo, son joyas resplandecientes con las que el hombre que hombre se luce decentemente. Dijo me llamo, contestó lindo sonido, mas para llamarse Alberto hay que ser bien Albertío.
Autre annonce d'un événement qui prend toute cette fin de semaine qui a lieu à Genève, c'est le Collège du Travail qui marque 20 ans d'existence. Le Collège du Travail, eh bien, c'est en 1978 que Lucien Tronchet, ancien secrétaire syndical de la Fédération ouvrière du bois et du bâtiment à Genève, créa la fondation du Collège du Travail avec le but de mettre en valeur la mémoire du monde ouvrier. Alors, 20 ans aujourd'hui de la création du Collège du Travail et plein de manifestations, de films, de rencontres autour de ce qu'est le syndicalisme et la lutte des travailleurs. Alors, précisons encore un certain nombre de choses à propos du Collège du Travail. Alors, Lucien Tronchet, qui donc lui-même était un syndicaliste très actif pendant de très nombreuses années, entre autres les années 30, où il a participé à des événements restés fameux dans la mémoire des ouvriers, du genre à racheter pour un franc symbolique les meubles des familles expulsées dans les quartiers pauvres, entre autres de Saint-Gervais, au moment de la crise des années 30. Et puis ensuite, plus tard, avec le 9 novembre 32, son témoignage qui a été enregistré puisque témoin de cet événement gravissime dans la ville de Genève. Bref, une présence très active jusqu'à, et c'est ce qui fera qu'il sera président donc de la Fondation Collège du Travail jusqu'à sa mort en 1982. Et c'est Jacqueline Bernstein-Vreff qui l'a remplacé depuis 1984. Alors pendant ces 20 ans d'activité, le Collège du Travail a sauvé, entre autres, de l'oubli nombre nombreux documents concernant le mouvement ouvrier genevois et qui sont désormais conservés dans son fonds d'archives. Il y a eu souvent des publications qui ont été faites par le Collège du Travail, de recherches historiques, de témoignages d'histoire orale. Et il y a eu aussi des expositions, des colloques. Enfin bref, le Collège du Travail s'est efforcé de tisser des liens le plus vivants possible entre le monde du travail d'hier et celui d'aujourd'hui. Il ne s'agit donc pas simplement d'être une bibliothèque, de loin pas. Au contraire, le Collège du Travail se veut très actif dans l'intervention dans le monde du travail aujourd'hui encore. Pour demain, et bien demain encore, pour les 20 années à venir et plus, plein de projets qui ne manqueront pas. Entre autres, ce sera l'objet du dernier débat prévu en clôture de ce que le Collège du Travail a appelé un festival qui a pour titre « Mondialement vôtre, le syndicalisme en images et en débat ». Et je vous en parle tout de suite. Alors, mais parlons encore d'une action qu'a lancée le Collège du Travail et qui concerne les femmes. Le Collège du Travail s'est préoccupé du travail domestique non rémunéré fourni par les femmes et le Collège du Travail a contribué, par exemple, à la création du syndicat des personnes actives au foyer, connu sous le sigle SPAF. Alors, le festival Mondialement Vôtre, le syndicalisme en images et en débat, eh bien, pourquoi avoir mis sur pied ce festival? Parce que le Collège du Travail entend contribuer à la réflexion sur les réponses à donner au chambardement des conditions de travail et de vie provoquées par la globalisation de l'économie, les politiques néolibérales. Et les discussions et les films proposés pendant ce festival tourneront tout autour de deux idées forces. Premièrement, la connaissance du passé est utile à la construction de l'avenir. Et deuxièmement, celle-ci passe par le renforcement de la solidarité entre les travailleurs-travailleuses, par la lutte collective et l'organisation syndicale. Alors, les films, les différentes soirées, il y a souvent des films, parfois des débats. Je vais vous en parler en vous donnant quelques petits exemples, parce que je n'ai pas le temps de passer tout en revue. Mais les choses, le festival a commencé mardi soir avec un film, un court-métrage très connu brésilien qui s'appelle « L'île aux fleurs ». Et qui est un film traditionnel sur la, qui est un pied de nez aux défenseurs de l'ultralibéralisme économique du cinéaste brésilien Jorge Furtado. Et puis, d'autres films qui vous sont proposés tout au long de la semaine. Ce soir, par exemple, faudra vous dépêcher parce que c'est à 18h30, un film réalisé par la réalisatrice française Claire Simon qui a voulu faire un documentaire à l'origine sur une petite entreprise qui fabrique de la cuisine fast-food. Et puis, c'est une entreprise qui a, vous savez, de ces petites entreprises où le patron, les ouvriers, finalement, tout le monde met la main à la pâte parce qu'il faut y arriver. Et puis que, en fait, au moment où Claire Simon est intervenue dans cette histoire, c'est plutôt l'histoire d'un naufrage qu'elle a filmé, malgré les efforts désespérés du patron, en l'occurrence patron tunisien, et du dévouement de ses collaborateurs, de sa secrétaire Gisèle, par exemple, et de ses cuisiniers, Fatih, Toufik et Madani, qui tous ont essayé de bosser coûte que coûte pour que l'histoire ne sombre pas. Et pourtant, c'est arrivé. Et Claire Simon disait, je ne savais pas que la boîte allait fermer quand j'ai tourné ce film. Pendant le tournage, je croyais moi-même, c'était sûr que ça allait marcher. D'ailleurs, c'était mon pari, c'était le leur. Et on ne savait pas du tout au moment du tournage que malheureusement, ce qui allait arriver, c'était le coulage de l'entreprise. Donc, un petit peu un regard un peu triste sur que finalement, les alternatives au salariat ne sont pas très évidentes à mener jusqu'au bout. Et que face à la concurrence, c'est très difficile de s'en sortir. Ça, c'est le film de ce soir, donc Coûte que coûte, réalisé par Claire Simon, réalisatrice française. Et puis, à 20h30, un film qui évoque les ouvrières du textile dans une entreprise en ex-RDA. Le film a été réalisé par un réalisateur donc allemand qui s'appelle Volker Koepp. Et ce film, Volker Koepp a entrepris quelque chose d'incroyable. Il a suivi pendant 20 ans les ouvrières de cette entreprise textile en revenant tous les 3-4 ans et à la fois en suivant les ouvrières dans leur travail mais aussi dans leur vie privée pour constater quelles étaient leurs conditions de travail, les conditions sur leur vie privée et les changements obtenus petit à petit. Et les dernières images ont été tournées au lendemain de la réunification pour constater que, hélas, toutes ces femmes étaient au chômage. Voilà, ça c'est pour ce soir, donc mercredi 25. Et puis tout au long de la semaine encore, donc jeudi 26, vendredi 27, samedi 28, dimanche 29, des films tous les soirs. J'attire peut-être votre attention sur un autre film qui évoque particulièrement la situation des femmes, sujet dont nous avons beaucoup parlé dans Honte Femme, c'est l'esclavage des femmes dans les zones franches. En l'occurrence, un film documentaire réalisé par deux cinéastes au Salvador en 1997. Un film soutenu par l'association Solifon, dont nous avons aussi parlé, et qui donne la parole à ces femmes qui sont le 80% des travailleurs, en l'occurrence travailleuses dans les fameuses maquilas, ces entreprises dans les zones franches. Il s'en trouve beaucoup en Amérique centrale, il y en a aussi en Asie. Mais ici, entre autres, on retrouve une femme dont nous avions déjà parlé ici dans cette émission, Virginia, qui, elle, s'est engagée à un moment donné pour obtenir des meilleures conditions de travail pour elle et ses camarades de travail. Et qui a été licenciée pour avoir tenté de mettre sur pied un syndicat qui aujourd'hui figure sur une liste noire qui fait qu'elle ne peut absolument plus trouver de travail nulle part et donc qui a choisi de faire du témoignage son engagement principal. Donc ce film « Esclavage en zone franche », il est montré le vendredi 27 en soirée. Voilà. Alors, débat. Débat vendredi 27 à 20h30 avec entre autres comme invité sur le thème mondialisation des luttes sociales et syndicales la politologue et directeur associé du Transnational Institute, c'est Suzanne Georges, cette femme qui a beaucoup amené sur la compréhension de l'économie néolibérale. Elle sera là avec d'autres intervenants donc pour évoquer la mondialisation des luttes sociales et syndicales, quelques conditions pour une mondialisation réunie des luttes syndicales et un retour sur le passé et évidemment envisager des perspectives d'avenir. Donc ça c'est vendredi 27, 20h30, rencontre débat autour du thème mondialisation des luttes sociales et syndicales. Deux femmes sont invitées dans un débat. Je ne suis pas sûre qu'elles évoqueront en particulier la situation des femmes, mais peut-être avez-vous envie de les rencontrer sur le thème « On a toujours raison d'agir ». C'est samedi 28 à 20h30 et sont invitées pour discuter donc de solutions aux problèmes du chômage, de la précarité du travail, de l'accroissement des inégalités. Eh bien, deux femmes qui ont des propositions à faire. C'est Arlette Laguillé, bien sûr, membre de la direction de lutte ouvrière en France, et Christiane Brunner, conseillère, bien sûr, aux États, présidente actuelle de la FTMH. Voilà, donc, si vous voulez discuter, on a raison d'agir, en présence d'Arlette Laguillé et Christiane Brunner, eh bien, c'est samedi soir à 20h30. Et puis, il y a un film de fiction qui peut-être vous donnera envie d'aller le voir par référence à ce que vous venez de voir. C'est le premier film qu'a réalisé Robert Guédiguian. Qui est ce Robert Guédiguian? J'espère que ça fait tilt dans vos têtes tout de suite, mais peut-être pas. Mais quand je vous dirai, c'est celui qui a réalisé Marius et Jeannette, je suis sûre que ça fera tilt immédiatement. Rouge Midi, tel est le titre de son premier film, qu'il a réalisé avec les mêmes acteurs et actrices de Marius et Jeannette. Mais ce premier film, réalisé en 1983, est un film qui raconte la saga d'une famille italienne émigrée dans le sud de la France au début du siècle. Et on la suit au cours des différentes générations jusqu'à nos jours, dans ses péripéties de travailleurs émigrés. Donc ça, c'est Rouge Midi, 14h, dimanche 29. Et puis, soirée de clôture avec un débat sur qui a pour titre « L'avenir du passé », quelles traces sauvegarder et dans quel but, avec entre autres comme invitée Christine Détraque, qui est l'assistante conservatrice au musée d'ethnographie de Genève, avec des historiens comme Éric Gollet, comme Charles Amber, qui est président de l'Association pour l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier à Genève, et d'autres encore, et qui donc participeront à ce débat. Quelles traces sauvegarder et dans quel but? À quoi ça rime de garder toutes ces traces du passé? Comment pouvons-nous les lier avec aujourd'hui et qu'elles soient profitables avec l'avenir des travailleurs prochains? Alors, toutes ces différentes soirées ont lieu à la salle de fonction cinéma à la Maison des Arts et du Grutli, rue Général Dufour 16. Je répète, donc tous films et débats ont lieu à la salle de fonction cinéma Maison des Arts et du Grutli, rue Général Dufour 16. Donc c'est tous les soirs jusqu'au dimanche 29. En général, les soirées commencent à 18h30. Il y a une autre étape à 20h30 et puis le samedi et le dimanche. Cela commence samedi à 17h et dimanche à 14h avec des projections et des débats tout au long de la soirée.
Small. question to throw, but I'll hit my mark, and you'll know, 'cause I'm really well acquainted with the span of your brow. If you didn't know me then, you'll know me now. You'll know me now. And it's all
Suzanne Vega, vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. J'ai quelques petites autres nouvelles à vous donner et surtout des rendez-vous qui peut-être vous intéresseront. D'abord, un rendez-vous proposé par l'association Bien-être. C'est une invitation à propos de démarches pour rendre possible l'accouchement à la maternité avec une sage-femme indépendante. En effet, l'association Bien-être s'est battue déjà depuis une année pour obtenir le fait qu'il y ait un suivi global depuis tout le travail prénatal jusqu'au postpartum par une personne du choix de la femme enceinte. Et alors, elles ont d'abord cherché à s'assurer évidemment la collaboration de plusieurs sages-femmes, puis ont contacté les responsables de la maternité. Et tout cela a fait que plein de gens semblaient intéressés. Et donc, il s'agit maintenant de passer à une phase plus concrète de ce projet, créer l'association et voir si de nombreuses femmes sont intéressées à cela, dans la mesure où il y aurait des gens intéressés à la fois à la maternité et parmi les sages-femmes. Donc, une assemblée est proposée pour constituer cette association de femmes intéressées à ce type de démarche pour leur accouchement. Et donc, cette association sera créée lors de l'assemblée convoquée pour le mardi 1er décembre à 20h30 à la maison de quartier de Plainpalais, 1 rue de la Tour. Je répète, mardi 1er décembre à 20h30, maison de quartier de Plainpalais, 1 rue de la Tour, pour créer une association qui réunisse des femmes intéressées par un accouchement à la maternité avec une sage-femme de leur choix qui les suive depuis le début de leur grossesse jusqu'après leur accouchement. Autre nouvelle, l'association EFI, Espace Femmes International, nous propose deux rendez-vous coup sur coup le jeudi 3 décembre et le vendredi 4 décembre, avec des femmes qui sont de passage à Genève, qui viennent d'ailleurs. Et bien évidemment, il faut profiter de leur passage pour apprendre des nouvelles des femmes qui vivent souvent dans des situations difficiles, ou bien des nouvelles de femmes qui travaillent sur le même sujet dans divers pays du monde. Et pour une fois qu'elles seraient toutes réunies à Genève, eh bien évidemment, il faut saisir l'occasion de les rencontrer. Alors, une première rencontre, donc celle du 3 décembre à 20h, tout ça se passe au bureau de l'égalité des droits entre hommes et femmes à la rue de la Tannerie à Carouge à Genève. C'est l'arrivée à Genève de femmes qui viennent d'Afghanistan. On marque les 50 ans de la Déclaration des droits de l'homme. Et on se pose bien évidemment la question depuis de nombreuses années maintenant, les femmes afghanes ont-elles le droit d'avoir des droits? Et on sait bien qu'hélas, leurs droits à l'heure actuelle sont extrêmement limités. Alors, on aurait plutôt tendance à dire que l'Afghanistan, aujourd'hui, serait la plus grande prison pour femmes au monde. Mais heureusement, malgré tout, des femmes luttent envers et contre tout. Et il serait bon que nous venions apprendre d'elles ce qu'il se passe et les soutenir dans leur lutte. Donc trois femmes de l'Afghan Women Network, donc le réseau des femmes afghanes, passeront par Genève. Elle s'appelle Gulalai Noria Esafika. Et elles nous parleront bien sûr de la situation des femmes en Afghanistan, des femmes réfugiées au Pakistan et de leur lutte pour leurs droits et pour la paix dans leur pays. Qu'elles soient en exil au Pakistan, il existe aussi le réseau des femmes afghanes là-bas et qui souhaitent propager une culture de la non-violence et du respect des droits. Et elles ont pour ce travail-là besoin de notre soutien. Il y aura aussi ce soir-là une autre femme, Elke Kessler, qui elle est dans un groupe de travail avec des femmes réfugiées qui nous parlera de ce que nous pouvons faire ici pour soutenir les femmes afghanes, donc dans un réseau qui prétend soutenir les femmes réfugiées. Alors, venez nombreuses le 3 décembre à 20h au bureau de l'égalité des droits entre hommes et femmes, 2 rue de la Tannerie, à Carouge. Je vous précise juste que les trois femmes afghanes qui seront présentes ici parlent soit en afghan, soit en anglais et que leurs interventions seront traduites. Donc, il faut savoir qu'il faudra porter un peu d'attention, mais je crois que ça ne pose pas de problème. On ne peut pas exiger d'elle qu'elle parle français. Je pense que vous l'imaginez. L'autre soirée proposée par FI Espace Femmes International, eh bien, c'est le lendemain. Et cette fois-ci, c'est pour marquer le 5e anniversaire de la campagne anti-vaccin contre la grossesse. C'est-à-dire, les membres du groupe de consultation internationale sur ce sujet se retrouvent à Genève pour quelques jours. Rappelons que les vaccins contre la grossesse sont des procédés immunologiques qui incitent le corps à reconnaître comme étrangère une hormone humaine, comme par exemple la HCG, c'est l'hormone, bon Dieu, quel nom, choriogonadotrophique. Alors, l'OMS comme l'Inde font partie des 5 institutions gouvernementales ou non gouvernementales qui patronnent les recherches autour de ce vaccin, anti-vaccin de la grossesse, je veux dire. Et dès 1994, un grand nombre d'organisations de femmes, en l'occurrence 338, ça n'est pas rien, se sont opposées à ce type de vaccin, entre guillemets, contraceptif. Parce que, considérant que ce type de contraception ne peut pas être contrôlé et interrompu par le couple lui-même, dans les pays du Sud, dit du tiers-monde, il peut être bien évidemment employé à l'insu des femmes. De plus, il semblerait qu'il touche le système immunitaire et de ce fait peut présenter des risques pour la santé des femmes. Alors, les membres de ce groupe international qui lutte contre le vaccin contre la grossesse, donc qui mène une campagne anti-vaccin contre la grossesse, veulent rencontrer Madame Brundtland, qui est donc la nouvelle responsable de l'OMS, et cherchent à discuter aussi avec le plus de femmes possible. Alors, après leur journée passée à l'OMS, elles viendront à FI, donc toujours au bureau de l'égalité. Et elles adoreraient rencontrer une série de femmes de Genève. Nous aurons toutes sortes de militantes qui seront venues des diverses organisations non gouvernementales qui se battent sur la question. Il y aura une femme qui vient d'Australie, une autre d'Allemagne, une troisième de l'Inde, une quatrième du Kenya, une cinquième du Brésil, une autre encore des États-Unis et la dernière des Pays-Bas. Donc, de nombreuses femmes pour vous parler de ce qu'elles font sur ce sujet. Le vendredi 4 décembre, il y a d'abord à 18h un apéro-repas avec elles à la cafétéria du bureau de l'égalité, donc de rue de la Tannerie toujours. Et à 20h, la discussion sur ces soi-disant vaccins, le contrôle des populations, bref, tout ce qui est fait pour limiter les populations sans inclure les femmes ou les familles, les couples dans cette question-là et puis de voir quelles sont les alternatives proposées par les organisations non gouvernementales de femmes. Alors je vous répète, vendredi 4 décembre, Espace Femmes International vous propose de vous réunir à 18h pour un apéro-repas à la cafétéria du bureau de l'égalité de rue de la Tannerie à Genève et puis à 20h pour le débat avec de nombreuses femmes représentantes des organisations non gouvernementales qui se battent contre le vaccin, contre la grossesse.
ich mir nur noch schnell. Die Spinnweben aus dem Gesicht, in Schuhe und Mantel, zwäng ich mich hinein. Diesen Arm werde ich heben, dieser